Genève. Côté. Nature.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Cité Genève dans votre émission hebdomadaire Genève Côté Nature. Je m'appelle Virginia et je suis la fondatrice de l'association Nariès qui œuvre dans la protection des espèces et des milieux naturels. En compagnie de ma sœur Émilie, nous essayons de sensibiliser la population à notre environnement pour que tout le monde puisse se rendre compte de l'importance de préserver notre planète pour le futur. Et c'est pour ça que nous nous sommes lancés dans cette émission de radio, pour montrer à tous nos auditeurs à quel point notre monde est beau. Et pour le maintenir beau, il faut le connaître pour savoir ce qui doit être protégé. Mais pour savoir ça, eh bien, il est capital de comprendre le fonctionnement de la nature. Bienvenue donc aujourd'hui dans un côté science.
Et oui, comme vous le savez, cette émission est dissociée en 4 volets. Côté passion, côté vadrouille, côté astuce et enfin côté science, dans lequel nous vulgarisons des notions scientifiques pour vous montrer leur importance pour comprendre le monde qui nous entoure. Aujourd'hui, dans ce premier côté science après les vacances d'été, et pour aller dans le vent de la rentrée des classes et de la reprise du boulot, nous allons parler fourmis, ces inlassables travailleuses qui n'ont comme optique dans leur vie que la survie de leur communauté.
Les fourmis font partie des hyménoptères, et comme certaines autres espèces de cet ordre d'insectes, les abeilles, les guêpes et les termites, ce sont des insectes sociaux, ce qui veut dire que tous les individus vivent dans une même colonie, en l'occurrence une fourmilière, et que tout le monde travaille pour que cette fourmilière fonctionne bien et survive à long terme.
Et comment font-elles ça? Eh bien, elles se divisent en groupes, appelés castes, dans lesquels chacun a un rôle, une fonction particulière. De cette manière, chaque individu est spécialisé dans sa tâche et peut l'effectuer avec le plus d'efficacité possible. Tous les individus ne se reproduisant pas, le but de tout le monde est donc d'assurer à la fourmilière une belle et longue vie, pendant laquelle les individus sexués pourront, eux, essaimer et coloniser d'autres contrées.
Alors dans les castes, nous avons déjà le rôle le plus important sans qui la colonie n'existerait pas, j'ai nommé la reine. La plupart du temps, il n'y a qu'une reine par fourmilière. On dit que le nid est monogyne. Mais il peut aussi y en avoir plusieurs dans certaines autres colonies, comme chez la fourmi rousse, bien connue en Suisse. On dit alors que la population est polygyne. Une reine est un individu reproducteur qui forme une nouvelle colonie après avoir été fécondée en vol par un mâle. Elle a une espérance de vie beaucoup plus longue que les autres individus de la fourmilière. Et oui, dans la nature, une reine peut atteindre près de 15 ans. Et le record est détenu par une reine de l'espèce Lasius niger, qui a vécu presque 30 ans.
La reine est donc à l'origine de toutes les fourmis de la colonie. C'est elle, et uniquement elle, qui pond des œufs qui deviendront des ouvrières, des soldates et des princesses au moment de l'essaimage. C'est une étape importante dans la vie d'une fourmilière, parce que c'est ça qui permettra à la population de coloniser d'autres milieux. Au moment de l'essaimage, la reine pond des œufs, qui donneront des individus sexués mâles et femelles et ailés. L'accouplement se fait en vol, puis tous retombent au sol. Après ça, le mâle meurt et la princesse perd ses ailes, puis elle creuse un trou dans le sol pour trouver un nouvel endroit pour former sa propre colonie et commencer à pondre. Cet unique accouplement permet ensuite la ponte de jusqu'à 1 million d'œufs durant la vie de la reine, le sperme étant stocké dans une poche spéciale.
La reine, les mâles et les princesses sont les seules castes sexuées. Les autres sont stériles et sont en charge de la protection et de l'entretien de la fourmilière. Les ouvrières sont les plus nombreuses. Elles ont le même matériel génétique que la reine, mais sont nettement plus petites. Leurs tâches sont nombreuses. Elles sont responsables du soin des œufs, larves et des nymphes. Elles gardent les œufs humides, les nettoient pour éviter la prolifération de champignons. Elles prémâchent la nourriture pour les larves. Elles déplacent tout ce beau monde régulièrement pour les placer à l'endroit idéal du nid en fonction de la température ou de l'humidité. Les ouvrières s'occupent aussi de nourrir la reine, qui, elle, ne sort jamais de la fourmilière, de nourrir les mâles, qui s'alimentent des sécrétions des ouvrières, et elles s'occupent aussi de l'entretien de l'ensemble de la colonie. Réparation des parois, réglage de la température, nettoyage des salles vides, défense en tout genre, elles n'ont pas de temps à perdre.
Mais tout cela concerne les jeunes ouvrières, parce qu'une fois âgées, leur cahier des charges les emmène à l'extérieur pour d'autres tâches. Première grande occupation, la récolte de nourriture. Les ouvrières chassent des insectes, récoltent du miellat et transportent la nourriture jusqu'au nid. On dit qu'une fourmilière de fourmis des bois, comptant 1 million de fourmis, consomme annuellement 30 kg d'insectes et 500 kg de miella. Ça leur prend donc un temps considérable, mais malgré tout, elles ne font pas que ça. Les ouvrières doivent aussi fournir les matières premières aux jeunes ouvrières pour l'entretien de la fourmilière. Elles ramènent donc aussi des matériaux de construction. Et enfin, elles sont aussi en charge du transport des individus qui ne peuvent pas se déplacer, comme les œufs et les larves, quand la colonie se déplace par exemple en cas d'inondation. Les ouvrières âgées peuvent toutefois retourner travailler dans la fourmilière en cas de besoin. Tout est adaptable parce que le but principal, on le rappelle, est la survie du nid et donc la maximisation de toutes les tâches à effectuer. Petite précision, ici nous n'avons pas parlé de la caste des fourmis soldates parce que ce n'est pas une caste à part entière, c'est une spécialisation de certaines ouvrières. Elles font donc d'autres tâches dans leur vie quotidienne et prennent un rôle défensif en cas de besoin. Il se peut qu'elles aient une apparence différente des autres ouvrières, avec par exemple une tête plus grande ou des mandibules plus développées. D'une manière générale, il y a toujours des tailles d'ouvrières différentes, mais il est vrai que chez certaines espèces, les fourmis de taille moyenne ont disparu, ce qui fait que la différence entre les ouvrières classiques et les ouvrières spécialisées est bien plus marquée, d'où le fait que l'on parle souvent de fourmis soldates. Pendant longtemps, on a pensé que le devenir d'une fourmi ouvrière dépendait uniquement de la nourriture qu'elle recevait et des phéromones produites, mais en 2018, une étude réalisée par des chercheurs de l'université McGill au Canada a mis en évidence la présence d'un organe qui apparaît soudainement à la fin du développement des larves, chez celles qui deviendront plus tard soldates, et qui provoque la croissance de la tête. Les phéromones sont tout de même importantes parce que les ouvrières produisent une substance qui inhibe le développement de cet organe quand il y a assez de soldats présents dans la fourmilière. En cas de menace, la phéromone n'est plus produite et toute une volée de soldats peut naître pour assurer la défense de la colonie. Mais dans le grand brouhaha et les va-et-vient d'une fourmilière, comment font-elles pour communiquer, savoir que faire et où aller? La communication chez les fourmis est extrêmement élaborée. Tout d'abord, il existe une communication tactile, qui est notamment utilisée pour induire le nourrissage des fourmis travaillant à l'intérieur de la fourmilière par celles travaillant à l'extérieur. On parle de trophallaxie. Les ouvrières tapotent l'écueilleuse avec leurs pattes ou leurs antennes, qui sont plus sensibles, pour demander la régurgitation de la nourriture. Chez les fourmis tisserandes, les ouvrières font aussi vibrer leurs antennes sur la tête des larves pour provoquer la sécrétion de soie utilisée pour coudre les feuilles entre elles. Autre outil de communication, les sons. Les fourmis peuvent striduler en frottant une sorte de petit grattoir sur une partie de l'abdomen ou même tapoter. Chez certaines espèces, frapper le sol est aussi une manière de prévenir les congénères d'un danger. Une sorte de son est aussi émis quand une nourriture est détectée afin d'attirer les autres ouvrières, l'intensité du son étant dépendant de la qualité de la nourriture trouvée. Cependant, le principal outil pour transmettre des informations est un signal chimique, odorant, qui utilise les phéromones. Elles sont produites par des glandes spécialisées ou sont contenues dans la nourriture régurgitée. Les phéromones, ce sont les équivalents des hormones chez nous. On les perçoit plus ou moins fortement et elles induisent des comportements ou des réactions physiologiques. C'est grâce à elles que toute une colonie peut coordonner ses actions. Alors bon, il existe de nombreux types de phéromones qui ont différentes utilisations. Par exemple, elles permettent à toutes les fourmis d'une colonie de se reconnaître. On pourrait dire que chaque colonie a son odeur. Quand deux fourmis se rencontrent dans un couloir, elles se frôlent les antennes pour vérifier qu'elles sont bien de la même colonie. C'est de cette manière que des intrus sont reconnus. Et dans ce cas, soit un combat est lancé, soit un évitement selon les situations. Attention, une fourmi qui passe beaucoup de temps à l'extérieur du nid perd peu à peu son odeur et elle risque de ne pas être reconnue quand elle rentrera. Les phéromones sont aussi utilisés pour trouver de la nourriture. En effet, quand des ouvrières sortent chercher une source d'alimentation, elles déposent petit à petit des phéromones pour marquer leur chemin à la manière du petit pousset et de ses cailloux. Si la recherche a été fructueuse, elle dépose une nouvelle marque en revenant au nid. Le chemin sera donc plus facilement repérable par d'autres fourmis qui, à leur tour, vont déposer des marques odorantes qui vont, peu à peu, renforcer le bon chemin pour trouver la manne. L'utilisation des phéromones est très variée et elle ne se limite pas à ces deux exemples. Elles servent aussi à la reine pour appeler ses ouvrières, aux mâles et femelles pour se retrouver, à la défense du territoire, etc., etc.
Avant de continuer sur les fourmis et de vous parler de quelques espèces incroyables et du rôle que ces animaux ont dans l'environnement, il est temps d'écouter une chanson. Et aujourd'hui, nous vous proposons « En l'an 2001 » de Pierre Bachelet, qui parle du nombre croissant d'êtres humains sur la planète et des mêmes erreurs qui sont répétées encore et encore.
J'aurai les cheveux blancs, je serai vieux demain. Quand t'auras tes 20 ans, en l'an 2001. Petit bonhomme, tu viens d'éclore comme un ange humain. Tout petit bout d'homme qui tend la main pour faire ses premiers pas. Petit bonhomme, traverser le salon, c'est un peu comme atteindre l'horizon. Petit bonhomme, faut jamais baisser les bras. Et on posera nos pelles à l'heure des repas. On chauffera nos gamelles sur les feux de bois. On fera des survolants pour aller plus loin. On aura 20 ans en l'an 2001. J'aurai bien des tourments, tu n'en sauras rien. Quand t'auras tes 20 ans en l'an 2001. Petit bonhomme, tu veux tout faire comme t'en as envie. Vivre au maximum, brûler ta vie sans savoir où tu vas. Petit bonhomme, partir sans rien savoir, c'est un peu comme marcher dans la nuit noire. Petit bonhomme, et dire que j'ai fait comme toi. On se fera des igloos, on mangera des phoques. Et on plantera des clous en plein dans les rocs. On n'aura plus de gants, on aura le poing. Quand on aura 20 ans en l'an 2001. Sur les photographies de ce vieux caillou, 3 milliards de fourmis qui courent après nous. C'est sympa, c'est marrant, mais on sera combien. En l'an 2001, on posera nos valises, nos cantines à faire. Sur un bout de banquise, un coin de désert. Et on se lavera les dents avec des refrains.
Radio Cité Genève.
C'était en l'an 2001 de Pierre Bachelet. Vous êtes de retour dans Genève Côté Nature, l'émission de l'association NARIES qui vous parle d'environnement chaque semaine. Aujourd'hui, nous sommes dans un côté science et pour rester dans la ligne de la rentrée scolaire, nous parlons des fourmis travailleuses et des caractéristiques incroyables de ces animaux. Dans la première partie, on a surtout parlé des castes qui régissent les colonies de fourmis et des phéromones qui permettent la cohésion de la fourmilière. Maintenant, parlons un petit peu de ce que les fourmis doivent endurer dans leur environnement. Alors, les ennemis des fourmis sont malheureusement nombreux. Les principaux, eh bien, ce sont les autres fourmis, parce que bien des espèces ont des besoins identiques et sont donc en compétition tant au niveau de l'habitat que de la nourriture recherchée, notamment les colonies de pucerons productrices de miellat. D'autres arthropodes sont dangereux pour les fourmis parce qu'ils sont leurs prédateurs. Il s'agit de plusieurs araignées, des syrphes ou de coléoptères. La plupart ne s'attaquent qu'à des fourmis isolées, mais certains, notamment les clitres, ce sont des petits coléoptères rouges avec quelques points noirs, ont une stratégie qui consiste à déposer leurs œufs dans les fourmilières. Ils sont enrobés de sécrétions pour ne pas être reconnus comme intrus et ils seront utilisés par les ouvrières comme matériaux de construction. Malheureusement, quand les larves éclosent, elles se nourrissent des œufs de fourmis et des larves. À une plus grande échelle, plusieurs espèces de pics consomment énormément de fourmis, notamment les castes ailées, et peuvent causer des dégâts dans les nids, tout comme les sangliers et les blaireaux. Et évidemment, l'être humain représente une menace importante pour les colonies de fourmis. Que les dommages soient causés volontairement par un promeneur aux pratiques peu éthiques ou involontairement lors de travaux forestiers, les colonies de fourmis en pâtissent depuis longtemps. Et nous n'allons pas épiloguer ici sur les problèmes causés par les changements climatiques. En 1966, en Suisse, les fourmis des bois ont été mises sous protection parce que leur population semblait reculer. Or, les fourmis sont des organismes extrêmement importants dans les écosystèmes, on verra ça juste après. De 2009 à 2017, le 4e inventaire forestier national a eu lieu. Et il a, pour la première fois, examiné systématiquement la répartition des espèces de fourmis des bois et leur dépendance vis-à-vis des structures forestières sur tout le territoire helvétique. De plus, les données du CSCF, donc le Centre Suisse de Cartographie de la Faune, sont maintenant considérées pour avoir une vue vraiment d'ensemble de tout ce qui se trouve chez nous. Alors justement, chez nous, on trouve 6 espèces différentes de fourmis des bois, toutes vivant en communauté dans des nids et toutes ayant une importance pour la pérennité de nos forêts. Tout d'abord, la structure même des fourmilières entraîne une amélioration du sol parce que les galeries l'aèrent et aident à son humidification. Les travaux l'ameublissent et les substances organiques l'enrichissent. Les bactéries et les champignons minéralisants sont donc favorisés et grâce au côté décomposeur et nécrophage des fourmis, les nutriments sont bien plus disponibles pour les arbres des environs qui vont donc mieux pousser. De même, on dit souvent que les fourmis participent au maintien des forêts diversifiées parce qu'en transportant les fruits qui les nourrissent, elles en perdent en chemin, donc elles les disséminent. De plus, elles ne mangent en général que la partie charnue présente autour des graines et jettent ensuite le reste dans leur décharge. Ces graines pourront donc germer comme elles le souhaitent. Une autre utilisation, on va dire, originale des fourmilières est faite par les jets des chênes ou certains pics. Ils s'approchent des fourmilières pour que les fourmis se défendent en les aspergeant d'acide formique qui leur sert d'antiparasitaire. Il arrive même parfois qu'ils lustrent activement leur plumage en tenant une fourmi dans leur bec. Mais le principal atout des fourmis est leur côté chasseur. Elles permettent de réguler les insectes ravageurs comme des chenilles papillons ou des larves de tantraide de manière fantastique. Au 19e siècle, déjà, on reporte dans des pinèdes que les zones entourant des fourmilières étaient épargnées, contrairement aux zones lointaines ravagées par ces nuisibles. Il arrive même que l'on introduise des fourmilières dans des zones dévastées pour lutter contre les ravageurs. Pour terminer cette émission, nous allons parler de quelques espèces de fourmis aux mœurs particulières que l'on trouve sur la planète. Commençons par un type de fourmi qui ne vit pas dans un nid fixe, les fourmis légionnaires du genre Escitone. Appelées comme ça parce qu'elles sont nomades, elles forment des groupes impressionnants tant au niveau du nombre de fourmis que du bruit qu'elles font en se déplaçant et de leur vitesse. Elles sont également extrêmement agressives et chassent tout animal qui se trouve sur leur passage. La morsure des ouvrières soldates est irréversible parce qu'elles ne peuvent plus ouvrir leur mandibule ensuite. Pour s'en débarrasser, il faut casser la tête et arracher le tout. Les pauvres. Il semblerait même que certaines tribus d'Amérique du Sud les utilisent comme agrafes et points de suture pour soigner des plaies ouvertes. Ces fourmis construisent des bivouacs constitués de toutes les fourmis qui se tiennent les unes aux autres. Au milieu, on trouve la reine, évidemment, les larves et le couvain. Le bivouac reste en place pendant 20 jours, durant lesquels des chasses sont organisées quotidiennement, toujours dans une orientation différente autour de la base, afin de nourrir la reine qui pond jusqu'à 100 000 œufs. Ensuite, pendant les 15 jours suivants, le groupe bouge quotidiennement pour avoir accès à suffisamment de nourriture pour alimenter toutes les larves qui éclosent. À la fin, la colonie redevient sédentaire pendant 15 jours, le temps que les larves se nymphosent. D'autres fourmis incroyables sont les fourmis du genre Atta, qui sont appelées champignonistes ou coupe-feuilles. Elles vivent en Amérique centrale et en Amérique du Sud, en fourmilière, et ont la particularité de se nourrir d'un champignon, un basidiomycète, qu'elles cultivent dans leur nid. Elles alimentent le substrat avec des morceaux de feuilles ou de fleurs qu'elles collectent dans la forêt. Le système de ventilation est très élaboré pour avoir un milieu propice au développement du champignon, et la configuration du nid peut être adaptée en cas de conditions climatiques défavorables. Elles peuvent par exemple ouvrir ou fermer des conduits d'aération, déplacer les champignons dans des chambres plus en profondeur, etc. Cette relation entre les fourmis Atta et ce champignon est une symbiose. Le champignon offre la nourriture et les fourmis offrent les soins, la protection et la dispersion. Ces fourmis sont nécessaires au bon fonctionnement de l'écosystème des forêts tropicales parce qu'en prélevant la végétation, elles permettent à la lumière d'atteindre les sous-bois et aident à améliorer donc la biodiversité. Continuons avec les fourmis de feu. Ce sont des fourmis extrêmement agressives qui ont une piqûre. Attention d'ailleurs, les autres fourmis mordent, elles ne piquent pas. Mais donc les fourmis de feu, elles, ont une piqûre très douloureuse provoquée par un dard à la fin de leur abdomen. Quand un animal ou une personne dérange un de leurs tumulus, des phéromones sont immédiatement émises et toutes les fourmis réagissent et se forment en essaim, en piquant au moindre mouvement. Ces fourmis sont toujours en déplacement, dans des racines de plantes de pépinière par exemple, ce qui fait que même si elles proviennent d'Amérique du Sud, elles se sont répandues aux États-Unis, en Chine, en Australie, à Taïwan, à Hong Kong et aux Philippines. Pour les grands animaux, la piqûre est douloureuse, mais pas dangereuse, sauf en cas de réaction anaphylactique. Par contre, elles peuvent tuer un petit animal comme un oiseau ou même un veau nouveau-né. Les fourmis de feu ont la particularité de réagir à une crue en se rassemblant en une boule qui sert de radeau. Les ouvrières sont à l'extérieur et la reine dedans. Quand la boule atteint un arbre ou un autre support, elles essaiment et y attendent que l'eau redescende. Leurs fourmilières sont aussi prévues pour résister à la sécheresse en creusant jusqu'aux nappes phréatiques et elles résistent aussi jusqu'à moins 10 degrés sans hiberner. Et pour terminer, nous allons évoquer une dernière sorte de fourmis, les esclavagistes. Il existe 230 espèces qui sont dans cette catégorie de parasites, et notamment les 14 espèces du genre Polyergus. D'une manière générale, les esclavagistes volent les larves et nymphes d'autres fourmis pour renforcer leurs effectifs. Pour ne pas être repérées, elles se regroupent grâce à des phéromones de recrutement, puis elles émettent des phéromones de panique pour disperser les soldats du nid ciblé. Une fois les capturées adultes, elles s'ajoutent à la colonie et travaillent en recherchant de la nourriture. Concernant les polyergus, elles ont des ouvrières incapables de s'occuper du couvain, donc quand elles volent d'autres nids, elles doivent capturer des ouvrières pour pouvoir perpétuer leur colonie. Le temps file comme d'habitude et nous sommes bientôt à la fin de cette émission, donc nous devons nous arrêter là. Mais nous aurions encore de nombreuses choses à vous dire sur les fourmis qui sont vraiment des êtres vivants captivants. Concernant les rendez-vous Nariès de cette semaine, nous avons un cours d'éco-couture jeudi soir durant lequel vous pourrez apprendre à réaliser des objets du quotidien vous-même au lieu de les acheter. Toutes les informations sont sur notre site internet www.nariès.ch. Et en attendant de vous revoir ou de vous rencontrer à une occasion, nous vous souhaitons à tous une formidable semaine.
Genève. Côté nature.